Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogics, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogics offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Amine Ghasmi sur Nutriradio.
Bonjour Amine.
Bonjour Fabrice.
Amine Ghasmi, qu'on retrouve chaque jeudi dorénavant pour cette émission Santé 360, et ça porte vraiment bien son nom parce qu'on a eu aussi des intervenants 360. On salue Stéphane Résimon, on salue Christian Boyer également. Et donc Amine Ghasmi, chercheur et PhD en micronutrition, vous êtes aussi le président de la SOFNA et de l'ILE. Deuxi NMS, c'est ça ?
INMS, exact.
Deuxi NMS, voilà, vous êtes un chercheur indépendant, vous avez publié plus d'une centaine d'études, vous êtes un peu la référence, je vais pas dire l'encyclopédie un petit peu de tout ça, mais en tout cas on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, on mesure aussi la chance qu'on a de vous avoir, et on remercie d'ailleurs notre partenaire qui est un laboratoire engagé dans la micronutrition, dans la fabrication de compléments alimentaires, mais aussi dans l'environnement. Enfin, c'est vraiment une vision très intégrative qu'on adore, c'est laboratoire Nutrilogics. Alors aujourd'hui avec vous, mon cher Amine, nous allons parler de la grande oubliée du métabolisme, si on peut l'appeler comme ça, c'est la vitamine B9. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis ça ?
Exactement, oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vitamine B9. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Et la B9, c'est au cœur de pas mal de processus métaboliques tels que la méthylation, par exemple. Et on connaît donc les défauts de méthylation qui peuvent conduire à notamment cette fameuse hyperhomocystinémie. Et puis toutes les problématiques qui sont liées et qui tournent autour de cette hyperhomocystinémie. Donc justement, c'est une vitamine extrêmement importante, la vitamine B9.
Alors on va comprendre ce qu'elle est réellement, cette vitamine. Mais si vous deviez déjà convaincre en une minute un médecin pressé, vous savez, ces médecins ils sont très occupés, que la vitamine B9 mérite mieux qu'une place secondaire, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Les médecins classiques, ils savent très très bien le rôle de la vitamine B9, et ce qui est bien connu en médecine classique, c'est que le déficit en vitamine B9, un déficit on va dire modéré à sévère, pourrait conduire à un type d'anémie qu'on appelle une anémie mégaloblastique ou macrocytaire. Déjà. Mais cette vitamine B9 peut impacter le métabolisme de manière considérable en diminuant, s'il y a une carence, en diminuant les neurotransmetteurs, donc tout ce qui est trouble cognitif, trouble lié donc à l'humeur, etc., peut augmenter le risque de certains cancers, peut diminuer la capacité du corps à synthétiser le glutathion et donc augmenter le stress oxydatif, peut diminuer la réparation de l'ADN et tout un tas d'autres choses, donc extrêmement importante. Et donc il faudrait toujours doser la vitamine B9. Et voir aussi cliniquement, est-ce que la personne ne présenterait pas certains signes cliniques de déficit en vitamine B9.
Alors pourquoi ? Parce que là, on a compris qu'elle était un peu omniprésente, hein, par rapport à ce que vous venez de dire, en tout cas en physiologie. Mais pourquoi elle est sous-estimée quand même en pratique ?
Eh bien, il y a une raison simple, c'est qu'elle est assimilée à ce que l'on appelle le groupe des vitamines B ou le complexe B. On parle du complexe B et comme si c'était une seule molécule ou en tout cas un groupe ayant les mêmes caractéristiques. Et donc, dedans, on a la B1, la B2, la B3, la B6, la B9, la B12, sans en parler des pseudo-vitamines du groupe B. La B7, la B8, la B5 aussi, et toutes les autres vitamines, la B18, la B, etc. Il y en a plusieurs, là, les pseudo-vitamines du groupe B. Et donc, en fait, en général, quand on veut parler de ces vitamines-là, on pense en complexe B parce que Un médecin classique, j'en ai formé plusieurs milliers, un médecin classique, en fait, quand vous lui parlez de vitamine B, il pense directement vitamine B, complexe B. Et ça, en fait, c'est le raisonnement d'il y a très très longtemps, lorsqu'on avait découvert pour la première fois la thiamine, qu'on appelle maintenant la vitamine B1, mais qu'au tout début, lorsqu'on avait découverte, on l'appelait vitamine B, tout court. Et on pensait que c'était la thiamine qui avait en fait toutes ces fonctions métaboliques de l'hématopoïèse, du fonctionnement du système nerveux, donc la fonction cognitive, de l'énergie, les mitochondries, etc. Et puis ensuite, on avait découvert d'autres vitamines du groupe B, qu'on avait appelé B1, B2, B3, etc., et jusqu'à B9. Et donc, la B9 a une particularité, tout comme d'ailleurs les autres vitamines du groupe B, mais surtout la B9 et d'ailleurs la B12 aussi. Ces deux-là se distinguent par un tas d'autres fonctions qui ne ressemblent pas toujours aux fonctions des autres vitamines du groupe B. Parce que les autres vitamines du groupe B, comme je disais, B1, B2, B3, B6, par exemple, et même B12, ils ont des fonctions équivalentes, pas exactement similaires, mais équivalentes. C'est-à-dire, ça agit sur le système nerveux, ça agit sur la production, par exemple, d'énergie, l'activation de certaines hormones, tout ça. Mais la vitamine B9 a une vraie particularité. Alors, ça agit sur ces différentes fonctions. On pourrait rentrer dans les détails pour certaines fonctions après. Et ça agit sur d'autres fonctions aussi, et dont notamment cette méthylation qui est au cœur de, on va dire, à l'interface entre l'environnement, le génome et le métabolisme en général.
Vous savez que, Amine Ghasmi, là, vous avez compris qu'on est dans un haut niveau de technicité. Vous voyez, c'est pas forcément l'émission accessible à tous. On est vraiment, là, je pense, dans une cible très professionnelle de santé et bien-être. Et si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, j'imagine que vous allez avoir besoin peut-être de réécouter cette émission. Comme moi, les émissions d'Amine, je les repasse en boucle et j'ai toujours pas compris la moitié. Mais en tous les cas...
Faut pas exagérer, Fabrice. J'ai des vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup du grand public qui aime bien et qui suivent aussi.
Bon, écoutez, vous me rassurez quand même. Et si vous avez des questions, parce que vous avez compris qu'on a une pépite là sur antenne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse de Nutri Radio, formulaire de contact, en précisant santé 360, merci. Bon, vous avez parlé de méthylation, quel est le rôle central de la B9 dans la synthèse nucléotidique et la méthylation? Vous pouvez nous rappeler un peu ce que ça veut dire aussi?
Alors, la méthylation, c'est très simple. Vous avez en chimie organique, en biochimie, vous avez ce qu'on appelle des groupements méthyl. Les groupements méthyl, c'est des CH3, c'est pour carbone, H pour hydrogène, donc CH3, et ces groupements méthyl sont essentiels à la vie, pas uniquement pour l'humain, mais pour tout type d'organisme vivant, y compris des micro-organismes, y compris des virus, des bactéries, tout. Et donc ces groupements CH3, ces groupements méthyl, ils peuvent se lier à des molécules, quelles que soient les molécules, en général, c'est des protéines, des nucléotides, etc., où ils peuvent se délier de ces molécules-là. Donc, ils peuvent se complexer avec ces molécules ou se décomplexer. Et donc, on appelle là, donc, dans le premier cas, la méthylation et dans le second cas, la déméthylation. Et alors, pourquoi c'est important? Parce que ça intervient, cette méthylation et aussi dans le sens inverse, cette déméthylation, ça intervient donc dans ce qu'on appelle les adaptations épigénétiques. Alors, épigénétique, on en parle très souvent. Épigénétique veut dire en fait simplement que c'est une interface moléculaire qui va faire traduire tout ce que vous faites, les comportements que vous avez, les habitudes, les automatismes que vous avez, ça va les traduire en langage moléculaire et ça va venir influencer les gènes. Donc, ça va allumer ou éteindre certains gènes. Et donc, la méthylation rentre là-dedans, la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN, c'est une des adaptations épigénétiques. Donc, cette méthylation-là, elle nécessite ce que l'on appelle un donneur de méthyl. Pour méthyler, il faudrait que le méthyl vienne de quelque part. Donc, on a un donneur de méthyl. Ce donneur de méthyl, on l'appelle le SAM, le S. Adénosyl méthionine, le SAM, d'accord. Et justement, ce donneur de méthyl, il est synthétisé à partir de la méthionine, qui elle-même est synthétisée à partir de l'homocystéine. Et cette synthèse-là, elle est médiée par la vitamine B9. Donc là commence en fait le vrai rôle métabolique de la vitamine B9. À partir de là, on va avoir un tas de répercussions sur des processus métaboliques, et c'est ce qui va expliquer toute l'importance de la vitamine B9. Donc, pour simplifier, on a cette fameuse homocystéine qui, classiquement, en cardio ou en endocrino, est considérée comme un métabolite toxique. Lorsque ça augmente, on dit, qu'est-ce qu'on dit classiquement ? On dit ça augmente le risque cardiovasculaire dans certaines conditions précises. Mais en médecine fonctionnelle, on parle de l'homocystéine non pas comme un moyen diagnostique ou d'estimation du risque cardiovasculaire, on la prend en compte comme étant un indicateur d'un ensemble de dérèglements métaboliques. C'est-à-dire que quand il y a moins de B9, on va avoir plus d'homocystéine parce que cette homocystéine va moins donner ce fameux donneur de méthyle qu'on appelle le S-adénosylméthionine. Et s'il y a trop d'homocystéine, on sait qu'on va avoir plus de stress oxydatif, moins de détoxification, moins de ce fameux cycle de l'urée qui permet de réparer les muqueuses, les tissus épithéliaux et tout ça, donc qui permet de régénérer un certain nombre de tissus, moins de réparation de l'ADN, moins d'un tas de neurotransmetteurs dont les catécholamines, dopamine, adrénaline, noradrénaline et les indolamines, sérotonine, mélatonine. Et des répercussions aussi qui ont été identifiées dans la littérature scientifique sur des risques de pathologie. Alors, les risques de pathologie, par exemple, des risques, comme on a dit, risque cardiovasculaire, ça c'est exact, risque de certains cancers, ou en tout cas à la limite de cancérogénèse, ça aussi c'est exact, risque de certains troubles neuropsychiatriques ou neurologiques, comme par exemple la bipolarité, comme la dépression, comme l'anxiété, la fatigue, etc., toutes ces choses-là. Donc, syndrome de fatigue chronique, etc. Et donc, tout ça, ça vient d'où ? Ça vient de ce fameux cycle dans lequel intervient la vitamine B9, qu'on appelle le cycle de l'homocystéine, ou qu'on pourrait appeler aussi le cycle de la méthylation. Et alors, il y a un truc très important ici à considérer, c'est qu'en fait, quand on a moins de groupements méthyl, je vous disais qu'on a des perturbations épigénétiques. On va méthyler mal l'ADN, mais aussi, hein, puisqu'on a dit, la méthylation ne vient pas se faire uniquement sur l'ADN, ça se fait aussi sur d'autres molécules. Par exemple, chez la femme, ça c'est extrêmement important et ça pourrait intéresser les... Oui.
Ce que vous allez nous dire par rapport à ça, c'est extrêmement important et c'est à ne pas rater, on est d'accord.
Exactement.
Eh bien, on va le faire juste après la pause. Merci de rester avec nous. On revient dans un instant sur Nutri Radio.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être ? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
Santé 360, Amine Gasmi sur Nutri Radio.
Amine Gasmi sur Nutri Radio qui nous parle de la vitamine B9. Et juste avant que je l'interromps, il était sur le point de nous faire une révélation, de nous dire quelque chose de très 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 important par rapport aux femmes. Et justement, cette vitamine B9, alors si vous venez d'arriver, on va pas tout reprendre depuis le début, mais sachez, pour vous rassurer, moi je vous invite à vraiment prendre le train en marche et puis après vous refaire le podcast qui sera dispo tout de suite après sa diffusion sur le live de Nutri Radio. D'ailleurs, peut-être que vous nous écoutez déjà en podcast. Dans ces cas-là, la pause a été vraiment très très courte. Mais avant de nous faire cette révélation au sujet du lien entre la vitamine B9 et les femmes, j'enchaîne sur la question suivante parce que c'est justement la grossesse qui a presque monopolisé la communication autour de la B9.
Absolument, oui, tout à fait. En fait, justement, j'allais revenir à la grossesse un peu plus tard, mais parlons-en. La grossesse, donc c'est très connu, hein, l'impact de la vitamine B9 au cours de la grossesse sur ce qu'on appelle la fermeture du tube neural chez le bébé, mais sur le neurodéveloppement tout simplement, hein, du bébé. Et on avait pendant très très longtemps utilisé ce fameux acide folique, qui est en fait une des formes de la vitamine B9, et ça n'est pas la forme qu'on trouve dans les aliments. C'est une forme synthétique qu'on appelle la vitamine B9 de deuxième génération, c'est l'acide folique. Mmh. Et puis maintenant, on a celle de troisième génération et de quatrième génération. Effectivement, la B9 est très connue pour son usage là, dans le cadre de la grossesse, justement.
Et alors, qu'est-ce qui était important là, sur les femmes ?
Ben, tu m'as posé la question tout à l'heure, Fabrice, sur qu'est-ce que tu dirais à un médecin sur la vitamine B9 qui pourrait l'intéresser. Eh ben, ça va intéresser pas que des médecins, mais aussi les médecins. Cette méthylation dont on parlait tout à l'heure, elle fonctionne aussi en dehors des adaptations épigénétiques. Par exemple, chez les femmes, on a cette hormone féminine qu'on appelle l'œstrogène, n'est-ce pas ? Et cet œstrogène, il est sous trois formes. Hein, tu parlais de la grossesse, il y a une forme d'œstrogène qui est l'œstriol, qui est moins importante parce que ça n'est produit par le placenta, donc qu'au cours de la grossesse. Mais on a les deux autres formes. La forme qui est la plus connue, c'est l'œstradiol. Et on a l'autre forme qui est produite, entre autres, par les surrénales ou par le tissu adipeux ou d'autres organes, qu'on appelle l'œstrone. Et justement, la dégradation de cet œstrone se fait dans le foie. Et quand la personne a ce qu'on appelle une constellation génétique, un ensemble de mutations génétiques qui la prédisposent, c'est assez fréquent, hein, c'est pas très rare, c'est assez fréquent, donc qui va la prédisposer à ne pas bien dégrader cet œstrone, qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire des super-œstrogènes. Hein, les super-œstrogènes, par exemple, un métabolite qu'on appelle le 4-hydroxyœstrone, et celui-là, il est 10 fois plus bioactif que l'œstradiol, qui est l'œstrogène de référence. C'est-à-dire que ça fait un effet hyperprolifératif, parce que l'œstrogène, c'est ça son rôle, en fait, entre autres, donc, dans l'appareil reproducteur et ailleurs dans les autres tissus, son effet, c'est anabolisant, c'est un effet hyperprolifératif. Donc, ce 4-hydroxyœstrone, là, comment on le dégrade ? Ben, on le dégrade grâce à la méthylation, grâce à un donneur de groupement méthyl, qui est le fameux S-adénosylméthionine, avec une enzyme qu'on appelle la COMT. Et donc, il vient d'où ce donneur du groupement méthyl ? Et comment fonctionne cette enzyme de méthylation ? Par la B9. Donc, en fait, les personnes qui sont déficitaires en B9, qui ont un mauvais cycle de la méthylation, vont moins dégrader les métabolites qu'on appelle les métabolites toxiques de l'œstrogène. J'ai cité un exemple là, le 4-hydroxyœstrone. Et cette mauvaise dégradation fait que ce 4-hydroxyœstrone s'accumule et qu'il crée des effets hyperprolifératifs. Ces effets hyperprolifératifs, on peut faire un dessin, ça augmente le risque de cancer.
D'accord. Bah, écoutez, effectivement, information très importante. Vous avez parlé de vitamine B9 première génération, deuxième génération, de troisième génération, et il y en a aussi de quatrième génération, je crois.
Oui, alors la B9 de première génération, c'est simple, c'est les B9 qu'on trouve dans l'alimentation.
D'accord. Les aliments,
c'est les vitamines, par exemple, légumes et feuilles vertes.
Oui. Amine, quand même, je sais bien, vous me sous-estimez, je dis qu'à l'alimentation, vous me dites les aliments.
Ok, quel
aliment, qu'est-ce qu'on doit manger, voilà, si on veut avoir une nourriture riche en B9, par exemple, déjà pour démarrer par la base.
Les meilleures sources sont les crucifères et les légumes à feuilles vertes. Ça, c'est les meilleures sources. D'ailleurs, des jus d'épinards, de céleri, de laitue, jus ou pas, hein, d'ailleurs. Mais les jus sont plus concentrés. Le brocoli, les choux et sous toutes leurs formes, etc. Voilà. Et puis ça, là, on trouve les dihydrofolates, les tétrahydrofolates, des formes donc de folates en général qu'on trouve dans l'alimentation. On appelle ça des B9 de première génération. La deuxième génération, c'est venu avec cette forme synthétique. Quand on dit synthétique, ça ne vient pas de pétrole. Hein.
Oui, c'est vrai que des synthétiques, ça fait toujours peur.
Ouais, bon, ça vient de ce qu'on appelle une synthèse par biotechnologie. ça vient de micro-organismes, en fait, qui synthétisent l'acide folique. Mais donc, c'est une forme qui est très particulière parce qu'elle est très différente des autres formes et ça se convertit mal, en réalité, en forme bioactive. Et puis, il y a la troisième génération, comme tu as dit, ce sont des sels de calcium de tétrahydrofolate, hein, de méthyltétrahydrofolate. Donc, c'est en fait la forme bioactive qu'on appelle la 5-MTHF, la 5-méthylène tétrahydrofolate, qui est associée à du calcium. C'est des sels de calcium de B9 bioactives. Et puis la quatrième génération, c'est la même chose, c'est des 5-MTHF, donc forme bioactive, mais qui forment un sel avec le glucosamine. Donc c'est des sels de glucosamine de 5-MTHF. Donc c'est la quatrième génération, c'est la mieux absorbée, et c'est celle qui, enfin, ça fonctionne aussi comme la celle de la troisième génération, c'est juste qu'elle est mieux absorbée. La différence entre l'acide folique et ces formes bioactives-là, c'est que l'acide folique se convertit mal, ok, ça se convertit mal, voire très mal chez certains, quand il y a des mutations, entre autres, celle qui est la plus connue, bon, c'est les mutations du gène qu'on appelle MTHFR, cette enzyme qui permet d'obtenir la forme bioactive d'AB9, la forme bioactive finale d'AB9, ça peut avoir, donc, par exemple, il y a deux mutations fréquentes, dont une qui est fréquente chez 20 à 25% de la population méditerranéenne. 20 à 25%, c'est-à-dire une personne sur 5, par exemple, une personne sur 4, à peu près, qui ont cette mutation. Alors, il faut bien préciser, il peut y avoir donc une forme de mutation, un génotype qui soit sévère, donc où là, les deux copies du gène sont mutées, donc là, c'est la plus sévère, et il peut y avoir juste une copie du gène qui est mutée et l'autre qui n'est pas mutée. Les copies du gène, ici, c'est ce qu'on appelle les allèles. Hein. On obtient une copie de la maman et une copie du papa. Et donc, quand on est... Je te donne juste un exemple là sur la sévérité de cette mutation. Quand on est muté homozygote, c'est-à-dire sur les deux copies du gène, hein, muté, la quantité de B9 bioactive produite par le métabolisme baisse de 10 fois. C'est-à-dire on a 10 fois moins de B9 bioactive comparé à si on n'avait pas la mutation, ce qui est incroyablement bas. Et alors ça, on ne le voit pas dans la biologie. En tout cas, on ne le voit pas correctement quand on dose. On peut voir une B9 normale ou normale basse ou un petit peu diminuée, mais pas diminuée de manière systématique parce que ça, c'est une limite de l'analyse biologique où on ne dose pas que la forme bioactive dans la B9 sérique, là on ne dose pas que la forme bioactive. Donc en fait, il faut faire l'analyse génétique du MTHFR et voir s'il y a la mutation ou pas. S'il y a la mutation, on sait que la personne elle est déficitaire en B9 et on peut voir ça même parfois cliniquement. Et donc à ce moment-là, ça va être systématiquement donc une supplémentation en B9, mais ça ne doit pas être l'acide folique. Justement, ça doit être la forme bioactive de préférence de quatrième génération, parce que l'acide folique, maintenant, alors on disait ça il y a des années et des années, il y avait peu d'études là-dessus. Maintenant, on a de plus en plus d'études sur l'effet potentiellement cancérogène ou en tout cas qui augmente le risque de cancérogénicité et qui fait que c'est très problématique. Alors, c'est expliqué métaboliquement par le fait qu'en fait, cet acide folique, comme c'est pas la forme bioactive, mais que c'est quand même la B9, il va venir se mettre sur les récepteurs de la B9 et les bloquer. Il donne pas d'effet en se mettant sur le récepteur. Donc, il va empêcher le peu de B9 bioactive produite encore par la personne de se mettre sur le récepteur. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait encore plus de carences avec cet acide folique qu'on prend chez ces personnes qui ont la mutation. Et donc, ça aggrave la situation. Et en même temps, on a observé un truc intéressant. Quelques études qui rapportent ça, c'est que ça fait baisser le taux de NK, les natural killers, les cellules tueuses de cancer.
D'accord. Ça fait baisser... ça, c'est important, ça, quand même.
Oui, c'est important. Après, il faut bien nuancer, parce que alors, quand on regarde un peu les études cliniques, on a, dans certaines études cliniques, une augmentation du risque relatif, bien précisé, de certains cancers. L'augmentation de risque relatif de certains cancers n'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est statistiquement significatif. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le risque du cancer en tant que tel. Ce qui nous intéresse, c'est la perturbation métabolique que ça produit. hein, de prendre l'acide folique chez ces personnes mutées sur le MTHFR, et le fait que ça pourrait aggraver la carence et donc encore créer encore ces problèmes liés à la méthylation.
On va revenir là-dessus, mon cher Amine, notamment sur ce que vous avez. Je pense qu'il faut reparler un petit peu plus de ce polymorphisme MTHFR, c'est ça que vous avez
exactement.
Cité. On va en reparler la semaine prochaine. Et puis on va aussi revenir sur ce que vous avez dit, parce que là, je vous dis, c'est intéressant. On dirait, quelle bonne relance de journaliste. c'est intéressant. Mais vous avez dit que la vitamine B9 fait baisser le taux de MK, c'est ça?
NK, oui. Les cellules NK, c'est des cellules du système immunitaire là, qui s'occupent, entre autres, des cellules cancéreuses.
Eh bien, on va en reparler la semaine prochaine, parce que ça mérite plus que c'est intéressant comme commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que c'est important, c'est très important de mettre l'accent là-dessus et de comprendre que cette vitamine B9, telle qu'on la propose aujourd'hui, il y a une certaine évolution hein, maintenant, mais telle qu'on la propose aujourd'hui, sous forme d'acide folique, va falloir que ça évolue.
Bon, on en reparlera la semaine prochaine, on reviendra en détail sur ces cellules natural killer ou les tueuses naturelles, évidemment, parce que bon, on parle de système immunitaire, on parle de cellules voilà, du coup, anticancéreuses, hein, on est d'accord. Oui. Donc, on est très... attentifs à ce que vous allez nous dire la semaine prochaine. Pour l'instant, on se quitte. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Et si vous venez d'arriver, je vous rappelle que eh bien, cette émission elle sera mise en podcast tout de suite, là maintenant. D'ailleurs, si les choses sont bien faites, l'émission est en podcast pour que vous puissiez non seulement la réécouter, mais aussi, s'il vous plaît, partagez-la. Ne gardez pas ce savoir partagé lui-même par Amine Ghasmi. Pour vous, ce serait dommage. Au revoir, Amine. À la semaine prochaine.
Au revoir. Merci. À la semaine prochaine.
C'est le retour de la musique, donc tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Santé 360, Amine Ghasmi sur Nutri Radio.